Ravi de vous accueillir pour ce nouveau podcast Le sens de l'impact. C'est le 9e épisode, 30 minutes en face à face avec un ou une convaincue qu'il est temps de changer notre façon de faire, mais aussi d'être. Impact positif, impact environnemental, impact native, ce mot est désormais mis à toutes les sauces. Il évoque au sens propre une collision entre deux forces. On l'emploie de plus en plus pour désigner une répercussion que l'on souhaite vertueuse. Mais quid de l'impact si l'on ne parle pas du sens? Ce podcast vise à mettre en lumière des femmes et des hommes en quête de sens pour une transformation des modèles de société ou d'entreprise. C'est le sens de l'impact. Et pour ce nouvel épisode, je suis ravie d'échanger avec Erwan Boumard. Bonjour.
Bonjour Nathalie.
Bonjour, vous êtes donc le directeur d'Énergie Partagée, qui est une association qui a pour objectif évidemment de sensibiliser au concept d'énergie citoyenne, on va en parler aussi, de fédérer les acteurs et tous les porteurs de projets, notamment les collectivités. C'est là qu'on fait le lien beaucoup entre collectivités et citoyens avec vous, on va en parler. Ça c'est venu, vous êtes, est-ce qu'on peut dire, vous êtes un ancien banquier, en tout cas vous venez du monde de la finance, il y a un peu plus d'une dizaine d'années que vous avez rejoint Énergie Partagée. Est-ce que vous considériez à l'époque que vous étiez en train de faire le grand écart?
Le grand écart pour plusieurs raisons, puisque effectivement je travaillais en salle de marché, notamment sur les crédits carbone et des enjeux très financiers, et j'ai décidé d'orienter plus mon projet professionnel sur des enjeux qui vont servir le bien commun, et puis dans une technicité, même si voilà, faire de la finance en salle de marché, c'est pas du tout la même chose que de la finance d'entreprise, où en fait on accompagne des projets, et donc il y a autant d'humains que de technicité. Donc effectivement, et dans l'environnement et dans la technicité, c'était un saut. Du coup, je me suis donné une année, notamment en travaillant à HEC, un MBA énergie, pour prendre le recul et puis un peu observer. Et donc, j'avais cranté les énergies renouvelables et puis aussi la lutte de crowdfunding qui, en 2013, était très importante. Et donc, j'ai atterri assez naturellement chez Énergie Partagée, qui correspondait bien aussi dans la dynamique entrepreneuriale. C'était quelque chose aussi de très important pour moi. J'étais dans une structure une grande maison à Société Générale, où ça plafonnait un peu. Et là, en fait, on me donnait les clés du camion pour démarrer une nouvelle aventure.
Donc finalement, vous aviez besoin à vous écouter d'un peu plus d'humain et d'un peu plus de concret finalement, que ça soit réel cette transition écologique.
Voilà, de concret, de sens. J'avais notamment beaucoup travaillé sur les crédits carbone issus de projets d'énergie renouvelable, mais on voyait pas les projets d'énergie renouvelable, on voyait juste les crédits. Et donc effectivement, aller sur le terrain, faire la différence entre des bons et des mauvais projets d'énergie renouvelable, c'était des choses qui étaient déjà présentes dans les crédits carbone avec les standards un peu différents. Mais effectivement, j'avais besoin de développer ce rapport à l'humain que j'avais plutôt côté associatif à côté de mon activité professionnelle. Et puis là, j'ai pu merger les deux.
On va y revenir à ce sujet en particulier, notamment les crédits carbone. Il y a des sujets plus globaux et évidemment sur le rôle de la finance qui est en train de bouger, mais on peut encore se poser des questions, Erwan Boumard. Mais arrivons à Énergie Partagée et parlons-en largement puisque c'est évidemment cette structure que vous dirigez. Vous le voyez vraiment comme un outil d'investissement qui soit à la fois au service des collectivités et qui permette d'engager les citoyens dans la démarche? Ça manque encore?
Alors ça manque. Ça dépend des territoires. Effectivement, il y a 10 ans, quand je suis arrivé, le mouvement énergie partagée, donc qui repose sur une coopérative et puis une association, était naissant. Il y avait à peu près 3 salariés. Aujourd'hui, on est plus d'une centaine entre la tête de réseau, la coopérative et puis les réseaux régionaux qui sont nos représentants locaux dans les différentes régions. Et effectivement, on voit bien que ça intéresse énormément l'écosystème, et en plus, initialement, c'était plutôt des projets portés par les citoyens, avec beaucoup de petits projets de toiture solaire et puis quelques gros projets. Et puis les collectivités, après la loi de 2015 de transition énergétique, se sont emparées du sujet, ont mis quelques temps à construire leurs outils, notamment via l'ESM, donc que ce soit directement les collectivités, les EPCI ou leurs représentants, les syndicats d'énergie,
sont des syndicats d'énergie mixte, c'est ça, les SEM. Je le précise, on ne sait jamais pour
ça. Oui, alors c'est des sociétés d'économie mixte. Ouais,
société d'économie mixte, voilà, je mélange les mots moi-même.
Non, pas de souci. Et du coup, effectivement, très logiquement, c'est principalement les syndicats d'énergie dans les territoires, donc qui sont au niveau généralement départemental, qui ont créé leurs outils puisqu'ils ont la compétence énergie pour les différentes communes d'un département généralement. Effectivement, énergie partagée s'est très vite orientée vers et les citoyens et les collectivités qui voulaient en fait faire des projets locaux, publics et dans des dynamiques assez ouvertes. Mais on a vu arriver à partir de 2017 aussi beaucoup de développeurs privés qui voulaient intégrer dans leur démarche d'entreprise à mission, dans leur démarche d'exemplarité, en fait, les acteurs territoriaux dans les différents projets et étaient d'accord pour partager la gouvernance, partager les informations. Donc, on a aussi beaucoup travaillé côté énergie partagée à l'inclusion de ces acteurs privés. Et du coup, un des points forts d'énergie partagée, c'est d'être un peu le tiers de confiance entre ces différentes personnes-là, entre des citoyens qui n'ont pas obligatoirement les compétences, en tout cas qui sont des non-professionnels à la base individuellement, même si certains peuvent avoir des très bonnes notions qui vont être après recyclées. Les collectivités qui ont une vision institutionnelle, mais aussi des contraintes spécifiques, et puis des acteurs privés qui, eux, sont rompus, on va dire, au développement de projets, à la finance et aux juridiques d'entreprise. Et du coup, en fait, il faut créer une culture commune, partager les valeurs. Et donc, c'est ce à quoi s'est attelé l'énergie partagée maintenant depuis plus d'une dizaine d'années.
Est-ce que ça n'a pas aussi été une forme d'outil pour une plus grande acceptabilité, puisqu'on le sent monter, et notamment ces temps derniers, on recommence à parler, notamment à critiquer en particulier les éoliennes qui ont souvent été, on va dire, mises en exergue. Est-ce que d'associer tout le monde, ça ne va pas aider aussi à avancer plus facilement et à mieux faire comprendre quels sont les défis à relever, mais aussi l'importance que peuvent jouer les énergies renouvelables?
Alors, effectivement, on était très fiers de nos premières années où, globalement, les projets éoliens étaient peut-être un peu plus loin démarrés, mais étaient bien acceptés. Du coup, on avait très peu de recours. Maintenant, c'est un peu plus compliqué parce que les recours sont souvent aussi portés par des structures qui sont pas du territoire direct. Et donc, on a beau faire un travail avec les populations d'explication, en fait, il y a quand même des recours qui sont formulés. Et puis on voit bien que le sujet des énergies renouvelables a un peu dérivé et un peu pris en étage d'un point de vue politique. Et du coup, on n'est plus du tout, dans certains cas, sur du rationnel. On est vraiment sur de l'émotion. Et du coup, là, on a beau expliquer, essayer de concerter, les postures sont assez figées dans certaines zones géographiques.
Voilà. Et est-ce qu'on n'a pas aussi parfois un peu tendance, de façon négative, à opposer à nouveau des énergies entre elles, enfin entre le nucléaire, les énergies renouvelables? Est-ce que là aussi on n'est pas sur une ligne de crête un petit peu dangereuse?
C'est effectivement souvent le cas. Tout le monde est d'accord pour taper sur le fossile, mais après, entre le décarboné vert et jaune, il y a effectivement des camps qui sont assez tranchés. Bon, après, on voit, dès qu'on prend un peu de recul, que de toute façon, le nucléaire, même s'il est relancé, on a 30 ans devant nous sur lesquels il va falloir quand même investir, et du coup les énergies renouvelables ont toute leur place d'ici là pour créer un mix qui fasse plus de sens. Donc il y a évidemment des militants historiques anti-nucléaires assez durs, mais je vois que globalement sur les aspects territoriaux, c'est plutôt en baisse cette confrontation nucléaire ENR. Par contre, c'est très instrumentalisé par des associations ou par des politiques qui veulent défendre plus que le nucléaire, on va dire EDF, notre glorieux passé nucléaire, ont plus de mal à se remettre en cause et à adopter les scénarios qui ont été travaillés quand même maintenant par que ce soit l'ADEME, RTE, tout ça. Voilà, c'est plutôt le changement de culture qui est difficile.
Voilà, ou comme cette tribune aussi d'anciens patrons aussi qui s'inquiétaient, ou d'anciens politiques autour de ces sujets-là. Voilà, en tout cas, si sur le terrain, il n'y a pas une opposition si radicale, on va dire, il vaut mieux le souligner. Alors, au cours de toutes ces années-là, vous aviez parlé un peu de projets, donc au début aussi, notamment autour des éoliennes. Est-ce qu'il y a un ou deux projets pour vous qui est particulièrement emblématique de ce que Énergie Partagée a pu mettre en place ?
On en a beaucoup et du coup je vais essayer d'être un peu innovant pour voilà, si ça intéresse les auditeurs, ils pourront aller évidemment sur le site pour voir les 150 projets. Prends un peu le contre-pied des habitudes, c'est un projet éolien qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Féol, qui est en cours de construction actuellement, qui a été lancé en 2016 par des citoyens ont été une petite centaine sur les modèles qui ont été faits en Bretagne, puisque celui-là est aussi à côté de Rothier dans l'Ille-et-Vilaine, mais sur les modèles qui avaient été faits notamment autour de Redon par Énergie en Pays de Vilaine, ont voulu développer tout seul un projet éolien. Alors tout seul, ils ont été voir quand même des bureaux d'études et puis des développeurs pour voir comment ils pouvaient monter en compétence en technicité. Donc ils ont pris des prestataires, mais ils ont pris le risque tout seul. Un projet qui tout de suite a été porté par aussi la communauté de communes et qui au bout de 10 ans de recours, comme quoi les recours même pour les projets citoyens ça existe, est sorti de son ornière. Et puis en fait là les citoyens se sont dit bon, la marche sur le financement et l'exploitation est peut-être encore un peu haute, et donc ils ont, une partie des citoyens au bout de 10 ans étaient fatigués, ont voulu sortir du projet. Et on a, avec Énergie Partagée et puis deux SEM, là c'est une SEM locale qui s'appelle Énergive, le SEM du syndicat d'Énergie 35 et puis SEM CIP ENR, travaillé à... donc on a repris en tant qu'institutionnel 60% du projet, ils ont gardé 40%. Et on a voulu faire de ce projet un projet innovant, donc on travaille encore là sur... pas encore acté, mais sur l'autoconsommation en éolien, ce qui ferait un des premiers projets éoliens où on aurait une partie, donc 3 éoliennes qui vendraient à la creux, puis une éolienne sur l'autoconsommation. En tout cas, ça nous a permis de co-construire vraiment un lien entre les collectivités territoriales très locales, c'est-à-dire EPCI et la commune, les citoyens locaux, et puis des acteurs institutionnels qui ont apporté leurs compétences techniques, notamment pour Énergif qui travaille beaucoup sur les dimensions raccordement du projet, suivi des travaux, et puis les dimensions financières, juridiques de CIPENR et d'Énergie Partagée. Donc ça, c'est un beau projet se termine bien, puisque normalement, il devrait être construit d'ici l'été prochain. Et après, des projets avec des dynamiques de co-développement. On pourrait citer celui d'Andilly, par exemple. Donc ça, c'est pareil, c'est un projet éolien qui a été développé à l'initiative d'une collectivité qui a fait un appel à manifestation d'un projet, qui a sélectionné Valorem comme opérateur, mais avec pour obligation d'intégrer les citoyens dans le projet. Donc il y a une coopérative qui s'est montée, donc qui maintenant s'appelle COPEC. Ils ont travaillé pendant plus de 4 ans, obtenu leurs autorisations et eu un projet sans recours, ce qui est exceptionnel en Charente-Maritime. Et donc pareil, ce projet maintenant tourne et en production, donc c'est aussi une belle aventure et un beau succès.
Donc ça veut dire, vous disiez que les collectivités avaient pris de plus en plus de place, qu'il y avait de la place aussi pour les citoyens, même si il y a quelques années, si je ne m'abuse, vous aviez lancé un petit peu un appel pour appeler à faciliter de plus en plus des solutions de finance éthique en disant qu'on n'en faisait pas encore assez en France. Est-ce que les choses bougent, Erwan Boumar ?
Il y a eu très longtemps dans les énergies renouvelables un peu une opposition entre effectivement de la finance éthique et puis aussi du financement participatif où en fait les épargnants français pouvaient et peuvent toujours aujourd'hui placer de l'argent en prêt en fait. Nous, l'objectif d'énergie partagée, c'est pas uniquement de lancer une dynamique dans un produit d'épargne, mais c'est aussi d'impliquer les personnes dans la gouvernance. Et c'est pour ça que on travaille beaucoup, notamment avec des actions, des parts sociales, pour que, qu'ils soient en direct ou en intermédiaire, les citoyens aient en tête qu'au-delà de l'épargne, il y a un risque entrepreneurial et qu'ils l'assument. Parce que quand on développe un projet, ben on va assumer les externalités positives, souvent les revenus, le partage de valeur au profit du territoire, mais aussi négatif. Cette notion de financement éthique et de montée en compétence sur la gouvernance, ça, il reste encore beaucoup de choses à faire pour aussi passer au-delà du financement éthique, passer d'une logique où les Français ont une vision de l'épargne qui est très protectrice, qui est très liquide, à un peu la réalité de l'entrepreneuriat. Et c'est un des vrais sujets aussi pour Énergie Partagée, c'est d'emmener les Français sur des dynamiques entrepreneuriales en assumant les risques qui sont derrière, donc en regardant les aspects éthiques, mais aussi économiques, et que par le biais d'énergie partagée, par leurs engagements dans les projets, les personnes comprennent les enjeux économiques et comprennent les enjeux de l'énergie. On a été très bousculés, évidemment, avec la crise sur les prix des électricité, mais évidemment, toutes les coopératives, tous les projets qu'ont rassemblés les citoyens ont pu mettre sur la table la question, mieux comprendre en fait pourquoi les prix variaient, quels étaient les risques ou les opportunités que ça faisait peser sur leur projet économique de coopérative énergétique. Et donc ça, c'est des enjeux très forts. On essaie notamment aussi au niveau européen avec les coopératives européenne de normaliser et puis de répliquer. Nous, on est engagé dans un projet qui s'appelle ACE au niveau européen, ces outils qu'ont notamment énergie partagée investissement au niveau international dans des projets dans des pays qui sont aujourd'hui moins développés sur tout cet aspect engagement citoyens dans les ENR.
Ça va au-delà évidemment d'énergie partagée, on va dire vous accompagnez le plaidoyer des projets de communauté énergétique portés au niveau national aussi et européen. Est-ce que vous avez observé de près, enfin vu un petit peu le profil de ceux qui investissent ou accompagnent des projets d'énergie partagée ? Sont très variés ou il y a un profil type ?
Oui, en fait, avec le temps, on voit que les personnes sont vraiment avec des dynamiques différentes. Il y a ceux qui portent des projets, la partie écologique du projet, et donc qui s'engagent pas obligatoirement de façon très importante sur les montants. Par contre, ils vont y consacrer beaucoup de temps. C'est souvent des militants écologiques très très engagés. Et puis, ils sont rejoints par des personnes qui sont là plutôt pour faire du lien social. Parce que, effectivement, dans ces collectifs, souvent coopératifs, mais même si on est organisé en société commerciale, on essaie de mettre en place des façons de gouverner, de décider différemment. C'est pas celui qui a le plus de parts sociales qui décide tout seul. Les prises de décision, on est dans des logiques de gestion par consentement. Donc il y a une dynamique. Puis il y a aussi du lien, faire du lien social. Évidemment, on a beaucoup de projets qui sont en zone rurale et donc ça permet de faire du lien social quand des fois il n'y a plus beaucoup d'activités associatives, et de refaire du lien notamment entre les différentes populations. Je pense en priorité évidemment aux agriculteurs. Là, il y a des projets qui sont très agricoles, comme des projets de méthanisation, mais de toute façon, des projets solaires ou éoliens, ils se font souvent sur des terres agricoles. Et donc ça permet de refaire du lien aussi entre ces populations-là, parler d'enjeux environnementaux, parce que des projets d'énergie renouvelable, c'est des projets à autorisation avec une analyse environnementale et puis une analyse d'impact environnemental. Et donc, on refait du lien autour de tous ces sujets-là de façon collective.
Ça, c'est pour parler d'énergie partagée. Pour revenir un tout petit peu sur votre vie passée, on va dire, le domaine de la finance de marché, le monde de la finance dont on parle beaucoup, on dit que si la finance bouge, tout va bouger. Alors, on le voit, la Banque de France a décidé de se doter d'un indicateur climat. Vous parliez des crédits carbone tout à l'heure, ça a été beaucoup critiqué, il y a des choses qui sont en train de se réguler. Est-ce que là aussi, dans ce domaine-là, hein, celui de la finance, vous sentez, depuis que vous l'avez quitté, que des choses quand même ont évolué ou qu'il y a encore des leviers ?
Alors nous, le monde de la finance est notre partenaire, même côté énergie partagée dans les projets d'énergie renouvelable. Hein, les projets, les gros projets sont financés à 80% par les banques. Et puis on voit bien que ça intéresse très fortement les banques, assurances, l'asset management en général, d'investir dans nos profils de projets. Énergie partagée investissement, par exemple, a le label FinanSol. Donc on a Natixis Solidaire, on a le Crédit Mutuel Asset Management qui nous inclut dans la poche solidaire. Donc on voit bien quelles sont leurs recherches, leurs contraintes. On a beaucoup plus d'intérêt que de projet. Donc oui, la banque est mobilisée. Nous, les spécificités qu'on a sur nos projets, c'est qu'on est des projets à gouvernance un peu compliqués. Donc évidemment, on va se tourner vers des acteurs financiers qui vont être en capacité de faire un peu un pas de côté par rapport à des projets très simples où il y a un acteur qui pilote, qui dirige et qui fait tomber les euros. Nous, on est dans des logiques où il y aura 2-3 acteurs et donc la gouvernance est un peu différente, mais on a une richesse aujourd'hui au niveau de la finance et de la finance éthique et solidaire, principalement dans les banques éthiques et les coopératives, le BPCE, qui vont être très intéressés à financer nos projets, puisque eux, leur posture, ça va être aussi de faire des projets de territoire. Et évidemment, c'est aussi les premiers financeurs des coopératives. Donc la banque nous suit, la banque nous aide aussi à monter en compétences. On voit que certains acteurs bancaires sont très contents de participer à nos projets, d'aider finalement des collectifs ou des collectivités non sachantes à monter en compétences, donner des conseils sur des fournisseurs, sur les stratégies. Donc on voit qu'il y a une grosse appétence et que effectivement, si on avait 10 fois plus de projets, ils financeraient 10 fois plus de projets. Donc on est on sait qu'on est nous l'épaisseur du trait, mais qu'on a une dynamique financière qui est très à l'écoute de nos demandes. C'est plus c'est vrai, c'est très une réalité très forte en France. On voit là, notamment avec notre expérience d'accompagnement au niveau européen, que c'est plus compliqué dans d'autres pays. Évidemment, on va dire le Benelux, l'Allemagne, eux sont bien équipés, mais on aide justement à faire ce lien aussi entre le monde bancaire et le monde des coopératives pour qu'il y ait ce lien de confiance qui se crée, ce qui n'est pas toujours simple initialement.
Et de toute façon, il faut y aller tous ensemble. Alors en tout cas, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, vous avez changé d'univers, même si vous n'avez pas pris un virage à 360 degrés, vous êtes resté dans le monde de la finance. Je ne sais pas si vous avez vu ce témoignage récemment d'un pilote de ligne, Anthony Vio, qui a décidé de démissionner après plus de 20 ans de service en disant « je me sentais coupable et était miné par l'éco-anxiété ». Vous, je pense que plus d'une dizaine d'années après, vous êtes content du virage que vous avez pris ? Parce que là, on est en train de parler aussi de sens.
Moi, je suis très content. Après, j'étais pas anxieux. Moi, je renie pas tout ce que j'ai fait côté banque, parce que il y a des aspects de technicité, mais il y avait aussi les accords de Kyoto et une envie quand même de faire bouger les choses dans les projets et dans les équipes dans lesquelles j'ai travaillé. Mais évidemment, depuis 10 ans, moi je suis dans une dynamique où tous les ans on a une dizaine de nouveaux collectifs, donc qui sont ambitieux, qui sont motivés pour faire des projets. Donc nous aujourd'hui on accompagne 150 projets, mais c'est à chaque fois des rencontres humaines différentes, donc c'est évidemment très enrichissant. J'ai beaucoup travaillé en direct et puis maintenant les équipes s'étoffent, donc je suis plutôt moi sur les gros partenariats, mais on ressent à chaque fois qu'on fait des inaugurations, qu'on fait des interventions, que cette histoire elle allume des étincelles dans les yeux sur tous les territoires. Alors évidemment, quand le succès est là, c'est plus simple, mais on a aussi vocation, alors côté énergie partagée, mais aussi collectivité, à aider, à aussi redonner aux citoyens de la visibilité sur oui, il y a des difficultés, on est là, on va vous accompagner, et finalement il y a une solidarité qui se crée, et même si le projet va pas au bout, toujours des aventures humaines assez enrichissantes. intéressante. Ouais.
Et alors pour finir, puisqu'on commence cette année 2025, où beaucoup disent que ça va être une année assez complexe, hein, on a un climat qui ne favorise pas vraiment non plus, on va dire, un enthousiasme très vif et une envie de se tourner dans la lutte contre le dérèglement climatique alors qu'il faut y aller carrément. Vous, qu'est-ce que vous auriez envie de dire justement pour y aller ? Qu'il faut prendre le contre-pied, peut-être pas écouter les Cassandres et autres, mais y aller ?
Ah, il faut y aller. Moi, j'ai la dernière pépite que je peux vous partager, elle date d'il y a un mois où j'ai vu une collectivité de une commune de moins de 150 personnes motivée pour faire un projet éolien avec une logique de démocratie participative très très forte où il y a tous les trimestres des assemblées où tous les citoyens influent sur la politique de la ville et cette dynamique elle était non seulement très intéressante. Mais quand le maire nous a dit bah c'est un territoire qui vote à plus de 60% Front National, on s'est dit ah oui, en fait dès qu'on donne le pouvoir aux gens qui s'approprient les sujets, on est capable de tout faire bouger, même si dans les Hautes-Serres ou dans les politiques nationales, les postures sont pas obligatoirement des postures qui vont dans le bon sens selon nous. On est capable de faire bouger les gens quand on les responsabilise.
Voilà. Dites encore Front National, on est passé au Rassemblement National, mais on reste dans le même esprit. Mais voilà. C'est ça qui est important, c'est qu'on entend parfois dire au-dessus, mais quand on a une réalité de terrain, on voit qu'elle peut être différente, et c'est ça qui est important, et de montrer à travers les témoignages qu'il faut pas toujours écouter une petite musique récurrente qui vient, mais que là on est dans quelque chose d'optimiste. Ben, merci beaucoup.
Tout à fait, c'est très rassurant pour nous.
Merci beaucoup Erwan Boumar en tout cas pour ce témoignage et d'avoir participé à ce podcast, et donc on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Sens de l'Impact. Encore merci.
Merci Nathalie.